Bonjour à toutes et à tous, nous sommes encore une fois ravis de vous avoir avec nous pour une cinquième édition de votre émission préférée, le live de Radio Bossier. Restez en notre compagnie pour découvrir des infos sur la vie du lycée, mais aussi en savoir plus sur l'actualité et la culture du moment. Aujourd'hui, pour l'invité du live, Jeanne a interviewé Monsieur Mattei pour en savoir plus sur son rôle de référent de la liaison entre les collèges et le lycée Bossier. Pour le micro-trottoir, Karl et Mélodie sont allés à la rencontre de certains élèves de spécialité HLP. Ils nous racontent leur échange avec un avocat pour travailler sur l'éloquence, encadré par mesdames Marignan et Duhamel. Candice et Nouran, avec leur Zoom sur de cette semaine, nous font découvrir le métier de secrétaire de la scolarité avec madame Spano et madame Moulet. Pour l'actu, la rubrique Géopoliticus d'Ethan évoquera la récente élection de Javier Milei en Argentine, et le petit journal de la culture d'Angelo traitera du film Napoléon, dernièrement sorti en salle. Enfin, Salomé nous fera un bref retour sur la vie du lycée. Sans plus tarder, passons tout de suite à notre invité du live, Monsieur Mattei, qui a bien voulu nous parler de sa fonction de coordinateur de la liaison entre les collèges et notre lycée. Interview menée par Jeanne.
Bonjour à tous, ici Jeanne. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre rubrique « L'invité du live ». Pour le cinquième numéro de notre live, j'ai le plaisir d'interviewer Monsieur Mattei, professeur de mathématiques et d'euromates de notre établissement, sur son rôle de référent de la liaison collège-lycée. Bonjour monsieur. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle ? Êtes-vous seul au lycée à organiser ces liaisons ?
Bonjour. Alors, mon rôle, en fait, est de gérer la liaison collège-lycée pour les mathématiques. Donc, je suis le seul à le faire pour les mathématiques, mais il y a Madame Tornard qui le gère aussi donc, en français. Nous sommes les deux responsables de cette liaison collège-lycée.
D'accord. Et du coup, comment s'organisent ces liaisons ? Et avec quel collège collaborez-vous ? Et quels sont les collèges de recrutement pour le lycée Bossier ?
En mathématiques, chaque année, nous organisons cette liaison avec le collège Curie. Donc les élèves de 3e viennent au lycée et font un travail de tâches complexes avec les secondes. Et cette année, il va y avoir d'autres collèges qui vont venir. Et en l'occurrence, il y aura tous ceux qui sont dépendants de notre lycée, à savoir Saint-Mandrier, Sifour, Fontfiol et Régnier. Et à la Seine, il va y avoir Curie, Éluard et Vallon qui vont venir aussi.
D'accord. Et du coup, dernière question, quels sont les bénéfices pour les élèves en participant à ces liaisons ?
Alors, l'intérêt de ces liaisons est que, en fait, l'élève puisse se rendre compte des objectifs qu'on demande au lycée afin qu'il puisse vraiment faire son choix d'orientation, à savoir est-ce qu'il a vraiment envie de faire des études au lycée général ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il s'oriente dans un lycée professionnel ou dans un CFA.
D'accord, et merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre interview, donc merci pour toutes vos réponses.
Merci à
vous. Un grand merci à Monsieur Mattei et aussi à nos auditeurs d'être présents à chaque rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour notre prochain invité du live.
Merci beaucoup Jeanne, et merci à Monsieur Mattei d'être venu nous expliquer ce rôle si important. Passons à présent à notre rubrique micro-trottoir. Mélodie et Karl ont rencontré sur le terrain deux élèves de spécialité HLP pour nous parler de leur expérience auprès d'un avocat. Écoutons leur point de vue.
Aujourd'hui avec Karl, nous sommes partis interviewer Madame Marignan ainsi que deux de ses élèves, Nina et Erin, qui nous ont présenté leur rencontre avec un avocat.
Donc vous avez pu rencontrer un avocat. Qu'est-ce que vous en tirez de cette rencontre ?
Alors bonjour. J'ai pu tirer de cette rencontre avec ce maître qui l'avait raconté un peu son parcours. Que c'était très intéressant, on a échangé autour de l'éloquence, de la facilité de parole. Donc c'est quelque chose d'assez important dans son métier quand il doit défendre quelqu'un au barreau. Et donc il disait que peu importe sa position dans l'accusation ou la défense, il se devait de rester neutre et que l'éloquence avait quand même une grande partie de son discours, que ça devait être très codé avec les différentes parties du discours classique.
Après avoir rencontré ce monsieur, donc avocat, ce monsieur aimait ce qu'il faisait et il nous a raconté que c'était pas son premier
premier métier, qu'il en avait eu plusieurs avant celui-là et qu'il avait fait ce métier pour être avec sa femme. Et donc ça m'a fait réaliser qu'on peut avoir plusieurs voies dans notre vie et que même si on nous presse pour choisir maintenant notre voie, on peut changer.
En quoi cette expérience était bénéfique pour les élèves ?
Alors d'abord, je tiens à remercier le Pôle 1 parce que le projet est organisé et encadré par le Pôle. C'est l'opportunité pour les élèves de découvrir non pas l'éloquence mais la rhétorique qui fait partie de leur programme et non pas seulement comme théorie mais comme pratique. Ils peuvent grâce à ce projet sortir justement des murs de l'établissement, rencontrer d'autres lycéens puisqu'ils participent à un concours de l'éloquence. Le fait de rencontrer Maître Bourrel, cet avocat, c'est une sacrée opportunité. Puisqu'il nous a bien fait comprendre combien la parole était une arme, une façon d'exister dans le monde. Et j'ai en face de moi des jeunes gens qui ont plutôt tendance à voir la parole comme la possibilité de manipuler l'autre. Donc ça c'est vrai, ça existe. Mais justement, si on est apte à percevoir la manipulation, on peut s'en prémunir. Et c'est surtout un moyen d'exister, de pouvoir se battre, puisque tout procès passe par la parole. Et c'est sortir de sa coquille, comme il semble, enfin c'est l'expression qu'on avait retenue parce que les élèves voulaient se protéger. C'est une façon de donner aux autres, donc c'est le lien au monde et c'est le lien entre humains. C'est finalement l'avantage de l'humain.
Nous remercions notre duo de reporters pour ces témoignages très intéressants qui nous ont permis d'en apprendre plus sur le statut et l'utilisation de la parole. À présent, place au Zoom sur de Candice et Nouran qui nous font découvrir grâce à Madame Spano et Madame Moulet le métier de secrétaire de la scolarité.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons accompagnés de Madame Spano, la secrétaire du lycée Bossier.
En quatre mots, en quoi consiste le métier de secrétaire de la scolarité ?
Alors, quatre mots, c'est difficile, mais on a réussi un petit peu à résumer. On a mis accueil, suivi, orientation et scolarité.
Quel a été votre parcours pour occuper ce poste ?
On a passé un concours de l'éducation nationale.
En quatre étapes, quelle est votre journée type ?
Là aussi, quatre étapes, c'est très court. Très court, mais on a fait au mieux. Donc on a la mise à jour entre la base élève et Pronote qui se fait quotidiennement. La gestion des mails avec traitement des demandes qui sont quotidiennes et nombreuses. Gestion du public, des visites des anciens élèves pour récupérer le bac ou alors des familles pour des inscriptions ou parfois des profs aussi. Ensuite, on a gestion de la scolarité des élèves. Ça, c'est du quotidien également. Scolarité des élèves, on tenait quand même à préciser un petit peu puisqu'on a selon les périodes en fait. Donc on a du traitement administratif des conseils de classe, donc pendant les périodes de conseils de classe avec vérification et impression des bulletins, envoi des mises en garde. Voilà. Ensuite, on a la gestion des fiches de dialogue pour tous les niveaux. On a tous les niveaux pré-bac, hein. On a des fiches de dialogue en terminale, en première et en seconde. On a la gestion des examens des BTS, donc toujours pareil, selon les périodes, ça arrive plus tôt. Après, on a la saisie AFELNET, qui ça tombe en fin d'année scolaire également, mais il y a tout le programme orientation en amont, avec la suivi donc aussi des inscriptions pour les bacs BTS sur Cyclades. On va avoir Parcoursup, avec pareil, les inscriptions et puis tout le suivi. L'orientation sur EduConnect pour les secondes. Et on a aussi la vérification délivrée à certaines tâches qui sont récurrentes dans l'année, mais qui ne sont pas quotidiennes tout le temps, c'est-à-dire que ça va être pendant certaines périodes de l'année, on va avoir différentes tâches qui arrivent.
Quatre choses que vous aimez dans votre métier.
Alors là, justement, ça a été difficile et comme nos tâches, elles sont nombreuses et variées, clairement entre notre secrétariat, le fait justement que ce soit varié, en fait on a un métier relativement enrichissant et intéressant toute l'année. Donc trouver quatre tâches qui nous plaisent, c'était compliqué. Le principal vraiment dans notre secrétariat de la scolarité, c'est que la scolarité de nos élèves se passe le mieux possible durant et les trois années pré-bac et pour les BTS, pour les post-bac, leurs deux années. Voilà, ça c'est ce qui nous tient à cœur. Après, toutes les tâches nous plaisent, il n'y a pas vraiment de tâches spécifiques.
Et quelque chose que vous n'aimez pas du tout dans votre métier ?
Alors c'est pareil, c'était compliqué, fastidieuse. Pouvez deux, clairement la vérification des dossiers d'inscription, tous les niveaux. De la seconde au BTS. Et après, on a également, bon, ça aussi, le classement. Donc, quand on doit faire des classements dans les dossiers, l'impression des bulletins au moment des conseils des classes, c'est pas intéressant en fait. Mais il faut le faire. Voilà, on a trouvé que ça, 4, j'en ai pas trop.
On entend souvent dire que les secrétaires passent leur journée au téléphone, à parler de tout et de rien. Un avis sur ce préjugé ?
Oui, alors là, ça nous a fait rire quand même, parce que clairement, effectivement, on passe beaucoup de temps au téléphone, parce qu'on a des demandes des familles et qu'on est là aussi pour les aider. Que ce soit ma collègue ou moi, on les connaît pas les gens, donc on va pas raconter notre vie au téléphone à des étrangers. On n'en a pas le temps. Par contre, on sait qu'il y a des gens qui ont besoin de parler. Donc, en fait, on essaye d'être à leur écoute. Donc là, nous, on prend plus, effectivement, le temps qu'on peut passer au téléphone pour une aide supplémentaire, en fait, pour les familles.
Vous êtes plus tailleur, pantalon et talon ou jean ou veste et basket ?
Alors, pas de code vestimentaire imposé. On est un peu les deux. Là, moi, je suis en jean aujourd'hui et basket. Mais ça m'arrive d'être en robe, avec talon. Ça dépend de notre humeur.
Un message à faire passer aux élèves, aux professeurs ou les deux ?
Oui. Alors, effectivement, pour les deux. Pour les deux, en fait, le plus important pour nous, et c'est ce qui pose des fois problème, c'est la consultation des mails. Voilà. Parce qu'en fait, on a des élèves qui consultent pas du tout leurs mails. Des enseignants également, ils en ont beaucoup, donc ils voient passer des mails. Et puis le nôtre, s'il passe un peu à l'as, voilà. Mais c'est vrai que les élèves aussi. Et on a des mails, on fait passer des mails importants pour les inscriptions au bac, pour l'orientation, pour Parcoursup. Donc là, moi, je sais qu'on insiste beaucoup auprès des élèves quand ils viennent dans notre bureau. Mais bon, ils viennent pas tous. Pour qu'ils consultent vraiment leur mail. Surtout quand après ils sont en terminale avec Parcoursup, on leur envoie beaucoup d'aide.
Un grand merci à notre second duo de reporters et à mesdames Spano et Moulet pour avoir éclairé sur ce métier dont on ne parle pas assez. Et maintenant, c'est le moment Géopoliticus. Ethan aborde la question de l'élection de Javier Milei en Argentine. Alors Ethan, quelles sont les idées de cet homme surprenant ? Quels sont les enjeux autour de son élection ? Nous t'écoutons.
Qui est le nouveau président de l'Argentine, Javier Milei ? Bonjour, aujourd'hui dans Géopoliticus, nous allons vous présenter le Trump de la Pampa, alias Javier Milei, le nouveau président argentin qui a pris ses fonctions ce dimanche 10 décembre. Né en 1972 à Buenos Aires, Javier Milei a suivi une formation en économie. Il est ensuite devenu très rapidement populaire, a commencé à gagner en visibilité et en reconnaissance dans leurs médias argentins à partir de 2018, avec des prises de position radicales et controversées sur les politiques économiques et monétaires. C'est un véritable showman, une star de la télé à l'américaine, fortement inspiré de son homologue américain Donald Trump. Sa montée au pouvoir se fait dans un contexte particulier. En effet, l'Argentine a traversé ces dernières années une période difficile, avec une inflation chronique, désormais à 3 chiffres, qui est montée jusqu'à 143% sur un an. 4 Argentins sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. L'endettement est préoccupant et la monnaie dévisse. L'économie argentine est également trop dépendante de son agriculture, qui est sa principale source de revenus. Parallèlement, le pays a connu beaucoup de corruption au sein du péronisme, mouvement fondé au milieu des années 40 autour de la figure de Juan Perón, devenu ensuite un acteur politique majeur en Argentine. Ce mouvement, qui cherchait à représenter une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme, a gouverné à de nombreuses reprises le pays, avant et après la dictature des années 76 à 83. Javier Milei promet de rompre avec tout ce passé, se qualifiant d'ultra-libéral anarcho-capitaliste, il a pour projet de faire des grosses coupes budgétaires au niveau de la fonction publique et de limiter au maximum l'emprise de l'État sur l'économie, quitte à remplacer le pesos par le dollar. Il se fait élire député en 2021, et chaque mois, il met son salaire en jeu lors d'une loterie géante diffusée sur YouTube. Puis, il se présente aux élections présidentielles de 2023. Sur les réseaux sociaux, il fait sensation avec son programme tronçonneuse, pour marquer sa volonté de faire des coupes budgétaires. Il n'hésite pas d'ailleurs à se balader avec cet engin en meeting ou dans les rues. À mi-chemin entre le Trumprise et le libertarisme d'un Elon Musk, il annonce qu'il autorisera la vente d'armes, interdira l'avortement et supprimera les ministères de la culture et de l'enseignement tout en réduisant les aides sociales afin de relancer l'économie. Il se fait élire avec 55,7% des voix, une victoire jugée écrasante puisqu'il est le nouveau président le mieux élu depuis le retour de la démocratie en 83 et qu'il arrivait en tête dans 21 des 24 provinces du pays. On voit mal toutefois les conditions de gouvernabilité une fois que Milei sera entré dans le palais présidentiel le 10 décembre. Son parti La Liberté Avance ne compte aucun maire ni aucun gouverneur dans l'État fédéral où l'enracinement politique local est une condition de l'exercice du pouvoir. Et il ne dispose que de 38 députés sur 257. Surtout quand on se souvient de la manière dont les excentricités de Jair Bolsonaro, président du Brésil et proche politiquement de Milei, ont marginalisé ce pays dans les discussions internationales entre 2019 et 2022, nous pouvons penser que l'Argentine risque de souffrir du mandat de son nouveau président, ouvertement climato-sceptique et toujours prêt à insulter ses détracteurs. Celui-ci s'est notamment promis de limiter les échanges financiers et commerciaux avec les pays communistes comme la Chine, qui est pourtant le principal partenaire économique de l'Argentine, tout en reniant les BRICS que le pays était sur le point de rejoindre. La victoire de Javier Milei s'inscrit dans un contexte mondial de consolidation des droites radicales, due à une inefficacité des partis traditionnels. Suivant donc les conseils de Tocqueville et vivifiant la démocratie, cette solution la moins pire de toutes, comme le disait Churchill.
Merci Ethan pour cette intervention très complète qui nous a permis de dégager les enjeux principaux de cette élection plus ou moins surprenante. C'est le moment culture avec Angelo et le petit journal de la culture. Alors Angelo, que peux-tu nous dire à propos du nouveau film sur la vie de Napoléon Bonaparte ? Qui pense quoi et quoi en penser ?
Le très attendu biopic Napoléon, réalisé par Ridley Scott, est sorti le 22 novembre 2023 au cinéma. Ce film, dans lequel l'empereur est incarné par Joaquin Phoenix, est encore visible dans les salles obscures. Revenons dans notre petit journal de la culture sur cette tentative autour de la grande figure de Napoléon, sur laquelle chacun a un avis, par un cinéaste de talent, à qui l'on doit notamment Blade Runner. Le film marque donc le retour de Ridley Scott au drame historique, lui qui a déjà montré sa capacité à transfigurer le genre du film historique comme il l'avait fait avec Gladiator. Le résultat, cette fois, est un peu déceptif, et on assiste à un film tableau, porté par une dramaturgie poussive, où l'on attend les prochaines scènes de bataille, au demeurant assez spectaculaire, pour relancer un scénario un peu trop illustratif. C'est comme si l'histoire de Napoléon était trop grande pour entrer dans un film. Le film s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Il retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, incarnée par Vanessa Kirby, le grand amour de sa vie. Cette idée du fil rouge fonctionne plutôt bien, même si le rôle politique de Joséphine est trop édulcoré, elle qui était pourtant au cœur des réseaux politiques de l'époque. C'est encore une occasion manquée de souligner la place des femmes dans l'histoire. Toujours à propos de Joséphine, une petite polémique a enflé sur l'âge de l'actrice, qui a 10 ans de moins que Joaquin Phoenix et paraît plus jeune que lui à l'écran, alors que dans la vraie vie, Joséphine avait 6 ans de plus que Napoléon. Mais au-delà du sujet de sa vie personnelle et sentimentale, le personnage historique que représente Napoléon a toujours prêté à controverse, et la sortie du film a ravivé les débats, notamment chez les personnalités politiques. L'émission Quotidien sur TMC a compilé les avis des différents partis politiques tels que la France Insoumise, le Parti Socialiste, Renaissance, les Républicains ou encore le Rassemblement National. Et à l'image des citoyens français, certains le décrivent comme un tyran ou un misogyne, quand d'autres le décrivent comme un héros de guerre, de la nation, un génie, voire même un exemple à suivre. On ne tranchera pas ici cette question, mais il est intéressant de constater que certaines figures irriguent encore les courants et les pratiques politiques actuelles, illustration faite par des critiques portées sur une certaine forme de napoléonisation du pouvoir par Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Chers auditeurs, ce qu'il faut avant tout retenir, c'est que les œuvres d'art nous poussent à réfléchir, à remettre en question nos préjugés et à toujours redécouvrir une histoire que l'on peut aborder par 100 angles différents. N'hésitez pas à aller en salle pour vous faire votre propre avis.
Nous te remercions Angelo pour ton analyse. Sacré personnage lui aussi, ce Napoléon. Pour terminer, passons la parole à Salomé pour la rubrique En bref, pour tout savoir sur l'actualité du lycée. À toi Salomé.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans En bref, je vous parle des actualités passées et à venir dans notre lycée. Grâce aux éco-délégués, à Madame Jacot et à Madame Lemercier, a pu avoir lieu la fête de la Méditerranée où les nombreux élèves inscrits ont nettoyé les plages de la ville. L'association Elle Bouge est intervenue au lycée afin de promouvoir les carrières scientifiques pour les filles. On remercie également tous les élèves qui ont participé au Téléthon, ainsi que les différents professeurs comme Madame Spaziano qui a organisé un atelier d'initiation à la salsa. Et pour la semaine à venir, la Maison des lycéens, en cette période de fête, organise un festival de Noël avec vente de chocolat chaud et concours du pull le plus laid. Et n'oubliez pas, le jeudi 21 aura lieu le repas de Noël à la cantine. Joyeuses fêtes et bonnes vacances à tous.
Merci beaucoup Salomé. Merci à toute l'équipe, reporters et techniques, pour la collaboration dynamique à l'occasion de cette dernière édition de l'année du live de Radio Gossier. Nous espérons que ce numéro vous a plu et nous serons ravis de vous retrouver l'année prochaine. En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et plein de belles choses pour la prochaine qui se prépare. À très bientôt, joyeux Noël à tous et bonnes vacances.